L'heure bleue sur France Inter.
L'heure bleue, ce soir, quatrième émission de cette série, semaine spéciale, consacrée au texte de Robert Linhart, intitulé « L'établi » et publié en 1978 aux éditions de Minuit. Vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter les jours précédents, dans la voix de Samy Frey, l'expérience qu'a vécue Robert Linhart, une expérience qu'il pensait peut-être définitive. Il voulait quitter sa condition d'intellectuel pour comprendre ce que ça voulait dire travailler en usine et peut-être continuer sa vie en devenant un ouvrier. Ce soir, nous allons entendre, d'abord lu par Samy Frey, la quatrième partie de l'établi, et puis ensuite, en deuxième partie d'émission, vers 20h30, nous avons la chance d'avoir rendez-vous avec Virginie Linhart. Virginie, c'est la fille de Robert Linhart. Virginie, elle est aujourd'hui une réalisatrice de télévision, une grande documentariste. Elle est aussi l'auteur de deux livres consacrés, l'une plus précisément à la vie de son père, qui s'intitule « La vie après », paru au Seuil en 2012, et puis aussi d'un livre plus collectif qui retrace l'odyssée de celles et ceux qui, comme son père, ont voulu s'établir en usine. Ce livre s'intitule « Volontaire pour l'usine, vie d'établi ». Ce livre a été publié en 2010. Mais comme chaque soir, dans cette semaine spéciale de l'heure bleue, nous allons tenter de rentrer, ce grâce à la lecture de Samy Frey, dans la tête, le cœur et le corps d'un intellectuel qui a voulu vivre les soubresauts, la lutte pour la dignité de ce que ça veut dire être ouvrier. Quatrième émission, l'établi.
La grève, lundi 17 février, 5h moins 5. Est-ce que ça va marcher? Je suis en sueur et ce n'est pas la fatigue du travail. Respiration difficile, battement sourd dans la poitrine. L'angoisse. À cet instant précis, l'idée de la défaite m'est insupportable. Les raisons se bousculent dans ma tête. Les demi-sourds des presses, les gaz et de la peinture, les mouchards de la CFT, les fouilles des gardiens, les chantages de Junot, les minutes de pause volées, le médecin du travail acheté, les frappés dans leur assurance et leur insolence de gaver, les Graviers, les Junot, les Dupré, les Huguet et autres binots, et tous ceux du dessus que nous ne voyons même pas. 5h moins 2. Pour l'honneur, a dit Primo. Pour la dignité, avons-nous mis sur les tracts. Au fond, toutes les grèves se ramènent à ça. Montrer qu'ils n'ont pas réussi à nous briser, que nous restons des hommes libres. Il faut que ça marche. Que l'usine s'arrête. Je scrute les visages. Comment savoir? Avons-nous assez expliqué l'enjeu? Peut-être aurions-nous dû faire des distributions à la porte des foyers, ou peut-être une réunion spéciale des caristes. Oui, mais par qui les contacter? Le gros Marcel, peu bavard. Est-ce que les Maliens vont s'arrêter, comme, paraît-il, ils l'ont annoncé? Pourvu que les chefs ne fassent pas immédiatement de l'intimidation. Je regarde autour de moi. Pas de blouse bleue, pas de blouse blanche. Ils nous font le coup du mépris. Vos tracts, on s'en fout. L'usine ne s'arrêtera pas parce que on la tient bien en main. Vous débrayerez à 20 ou 30, nous vous remplacerons et les deux chevaux sortiront normalement. Oui, le coup du mépris. Mais je suis sûr qu'ils sont aux aguets dans leur cage vitrée, prêts à courir si ça se gâte. Georges me fait un signe. Plus que 30 secondes. Le vacarme de l'atelier marche à fond. Strident, hurlement, vrille, vis, vilebrequin, marteau, lime, ponceuse, perceuse, fenwick. Plus que... quelques instants. Ça y est, 5 heures. J'arrête les balancelles et j'enlève mes gants. Lentement, ostensiblement, pour faire voir autour de moi que je débraye. Simon s'est immobilisé aussi. Le vacarme, me semble bien que ça diminue. Un coup d'œil au carrousel des portières, il est arrêté. Georges pose ses outils. Stéphane et Pavel remballent. J'écoute de toutes mes forces la grande chaîne. Oui, elle fait de moins en moins de bruit. De place en place, je vois des hommes qui la quittent. Encore quelques coups de vrille, de marteau, isolé, et le silence. Ah, ce silence. Comme il résonne dans nos têtes. Il est 5h01. L'atelier de la grande chaîne est arrêté. Mais tout n'est pas joué, il faut faire vite. Quelques dizaines d'ouvriers ont quitté leur poste. Les trous ont arrêté la chaîne. Mais beaucoup d'autres sont restés sur place, incertains. Ils ne travaillent plus, mais ils attendent. Déjà, chefs, régleurs, contremaîtres sortent de partout, s'affairent. Régleurs et chefs d'équipe vont remplacer les manquants et essayer de faire repartir les machines. C'est maintenant qu'il faut donner au débrayage un tour plus massif avant qu'ils y parviennent. Georges et les Yougoslaves l'ont compris. Christian aussi, qui rapplique à toute vitesse. Et nous voici formés en petit cortège d'une 50aine d'ouvriers fonçant vers la grande chaîne de poste en poste pour convaincre les camarades de débrayer pour de bon, de regagner les vestiaires. Allez, arrête, viens avec nous. Tu vois bien que c'est bloqué partout. Et puis à partir de maintenant, tu travailles gratuitement pour le patron. Ne laisse pas tomber les camarades qui débrayent. Ça commence à dégager sérieusement sur les chaînes. Certains regagnent les vestiaires, d'autres viennent gonfler notre cortège. Il se fait tout un brouhaha. Il y a bien 3 minutes que tout est arrêté. Ils n'ont toujours pas réussi à faire reprendre. Faut aller au transfert, essayer de faire débrayer Théodoros, dit Georges. C'est un poste clé difficile. La fixation du moteur sur le châssis. L'ouvrier qui le tient, Théodoros, est yougoslave. S'il arrête, les 2 composantes de la grande chaîne sont bloquées. Nous y courons. Nous voici autour de lui. Tout le monde parle à la fois. Georges reprend en yougoslave, calmement, s'efforce de le convaincre. Il a peur. C'est ce qu'il nous répond. Et ça se voit. Il a encore ses outils à la main. Le long câble avec l'interrupteur qui manœuvre la machine transfert, les clés pour la fixation. Il reste comme pétrifié, parlant difficilement. Ses yeux courent d'un point à l'autre de l'atelier.
Laura Adler sur France Inter.
L'été, comme un enfant, s'est installé sur mon dos et c'est très lourd à porter un enfant tout un été. Sans cigare, avec des hiboux ensoleillés, comme les enfants du mois de mai qui reviendront à l'automne après.
Pendant des années, nous avons manifesté, on ne nous a pas écoutés.
Les forces de l'ordre, qui sont le symbole de la violence de notre société, qui imposent la violence, obligent les manifestants, pour se défendre, à se défendre avec une certaine violence, pour ne pas se faire massacrer.
Et voilà, maintenant, pour le moment, l'affrontement est là, l'affrontement existe.
Ça y est.
Ça y est.
Nous ne sommes là que depuis quelques minutes quand surgissent les chefs. Ils ont couru à notre suite pour essayer de rattraper l'effet de la manifestation et enrayer le débrayage. Ils se fraient maintenant un chemin vers Théodoros. Il y a là Huguet qui fronce les sourcils et se dresse de toute sa petite taille, Dupré qui marmonne quelque chose d'indistinct, où l'on reconnaît seulement ce cirque et surtout Junot. L'agent de secteur rouge, gonflé de colère, presque apoplectique, qui aboie « Laissez travailler les gens !» C'est une entrave à la liberté de travail. Je relève les noms. Je relève les noms. Vous n'avez pas le droit. Et il est maintenant tout près de Théodoros. Il essaie de nous repousser, d'écarter Georges. Nous sommes décidés à ne pas nous battre. Nous savons bien que c'est ce qu'il cherche. Un coup, une empoignade, et ce sera le licenciement immédiat. Mais nous restons là. Nous faisons masse, pendant qu'il tempête et postillonne avec sa liberté du travail à la bouche. À l'instant où j'écris, je conserve en moi cette image, un porc en cravate, venu de son fauteuil hurler le droit à la liberté du travail. Un ouvrier fatigué et angoissé, que Citroën a décidé de river à la chaîne trois quarts d'heure de plus. L'ouvrier hésite, regarde l'agent de secteur, nous regarde, il paraît dépassé par les événements. Quelque chose comme du désespoir passe un instant dans ses yeux. Et puis, tout à coup, Théodoros lâche ses outils et se met à hurler « Laissez-moi ! Laissez-moi !» Une espèce de crise de nerfs. Il est très grand, agité de tremblements. Junot, effrayé, fait un bond en arrière. Un petit coup pour avoir un motif de licenciement, ce serait bien. Mais prendre une vraie raclée, Junot n'en a pas envie du tout. Le cri sauvage de Théodoros a fini de désorganiser la chaîne. Les ouvriers accourent de toutes parts. Notre petite troupe est soudain en crue. L'atelier arrêté pour de bon. Maintenant, une trentaine de camarades de la peinture débouchent de l'escalier. C'est une vraie manifestation de quelques 200 ouvriers qui parcourent l'usine immobilisée. Les machines se sont tues. On n'entend plus que nos cris. Sortie tumultueuse. Yves et des camarades de l'extérieur attendent impatients effusion. Ça a marché. Toute l'usine arrêtée. À tout à l'heure pour les tracts. Réunion fiévreuse au café des sports. On fait et on refait les comptes dans le brouhaha du sous-sol. Le 84, le 85, le 86. Tous les ateliers se sont arrêtés. Il y a plus de 400 grévistes. Pas une voiture n'est sortie après 5 heures. Maintenant, il faut tenir. Nous rédigeons un tract, le nombre des grévistes, un appel, à nouveau les traductions. La Renéo, tout est prêt tard dans la nuit. Je ne trouve pas le sommeil. De brefs assoupissements déchirés de vision. Les bidonvilles déferlent sur Neuilly. Une grande liesse de prolétaires sur les Champs-Élysées. Notre monde enfoui jaillit et se déverse sur l'autre comme un continent perdu, brusquement mis à jour, et le ras de marée que provoque son émersion, la vieille société tétanisée, voit, incrédule, se répandre une joie inédite, incompréhensible. Nous briserons les murs de l'usine pour y faire pénétrer la lumière et le monde. Nous organiserons notre travail. Nous produirons d'autres objets. Nous serons tous savants et soudeurs, écrivains et laboureurs. Nous inventerons des langues nouvelles. Nous dissiperons l'abrutissement et la routine. Sadoc et Simon n'auront plus peur. Une aube jamais vue. Blafarde et froide, l'aube de février, la vraie, coupe le rêve. Il faut y retourner. Une seule pensée dans mes mouvements pâteux, ce soir, 5 heures. Mardi, 18 février. L'usine est conçue pour produire des objets et broyer des hommes. Ce mardi matin, dès la première heure, la machine anti-grève de Citroën s'est mise en marche. Hier, les chefs nous ont fait le coup du mépris. Aujourd'hui, changement de tactique. Ils font de la présence. Et quelle présence ? L'usine entière résonne de leurs coups de gueule et de leur va-et-vient, de leur intervention tatillonne. Il en sort de partout. Il y en avait donc tant terré dans leur tanière vitrée. Blouse bleue, blouse blanche, blouse grise, jusqu'au complet veston, accourus sous des prétextes divers. Tout leur émotif a harcelé les ouvriers. Cette soudure, ça ne va pas. Cette peinture, ça ne va pas. Ce raccord, ça ne va pas. Cette retouche, ça ne va pas. Rien ne va plus. C'est comme cela qu'on produit des automobiles. Des machines moulent la tôle, d'autres pétrissent la matière humaine. L'usine est un tout. Les hommes et les femmes de l'atelier travaillent en silence et leurs visages ne disent rien. C'est sur eux que pèse maintenant l'engrenage. Comment mesurer cette résistance-là ? On saura à 5 heures. À l'approche de l'échéance, la tension se fait plus dure. Je l'aperçois dans les regards. On échange des interrogations muettes. Que fera le voisin ? Que ferai-je ? Ramasser sa volonté, prendre sa décision. On guette le chef d'équipe, le contremaître bien en vue, à quelques mètres, si près. Et puis ça va très vite. 5 heures. Départ de partout vers les vestiaires. Immobilisation des chaînes. En quelques instants, l'atelier s'est vidé d'un tiers. Les restants ne peuvent reprendre. Trop de trous à combler. Éclat de voix. Le contremaître Huguet s'est posté à la sortie et lance à un groupe de noirs qui s'en vont. « Dites donc, ça n'est pas l'heure. Vous aurez de mes nouvelles. » Dupré de son côté s'agite en céleri. Trop tard. Le flot des grévistes s'écoule en silence. J'ai dans la poitrine une brusque bouffée d'admiration. À nouveau le café des sports et son sous-sol enfumé. Nous avons aussitôt rejoint notre repère. Nous nous y entassons. Faire le point. Tous, nous avons ressenti la différence de ce débrayage en silence. Hier, c'était l'explosion de joie, la grande pagaille, la surprise d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, chacun des grévistes a quitté son poste sans un mot, sans un geste. Les visages étaient graves. Tout au long de la journée, nous nous sommes sentis épiés. Les discussions se sont réfugiées dans les chiottes, les coins des couloirs. L'usine s'est rétractée, chuchotement de notre côté, et la voix des chefs qui n'a cessé de retentir, d'occuper le terrain. C'est comme un étau qui s'est mis en place dès le matin. Aujourd'hui, mardi, premier tour d'écrou. Ce sera le deuxième. Atelier par atelier, nous faisons le compte des grévistes. Près de 300. 100 de moins qu'hier. C'est finalement peu, après toute cette mobilisation de la maîtrise. Mais c'est quand même un coup d'arrêt. Le mouvement ne se développe pas. Nous rêvions de faire boule de neige, mais nous sommes bien obligés de constater que nous avons fait le plein le premier jour. Maintenant, c'est l'érosion qui commence. Autre coup dur, à part Choisy, il ne s'est rien passé dans les usines Citroën de la région parisienne. La récupération a commencé partout ailleurs, sans accroc. Nous sommes isolés. Comment regagner le terrain perdu ? Le droit de grève existe. Faire grève, c'est une affaire de conscience qui regarde chacun. Respecter les ouvriers qui débrayent à 5 heures. Rédaction laborieuse. La réunion a été longue avec beaucoup de détails, de répétitions. C'est la fatigue qui fait son travail de sape, qui dilate les interventions. On entend mal, on s'énerve, on parle fort. Bon, c'est fini. Reste à appliquer. Mohamed et Simon partiront à la recherche de Klatsmann dans la nuit. Il habite dans un HLM à Ivry. Primo, Christian et moi allons renéoter les tracts avec Yves. Stencil, faute de frappe, retapé. La renéo, son ronronnement en cadence. Il me semble entendre un train qui file dans la nuit, paisible, image d'ailleurs. La nuit bascule dans les odeurs d'encre et le froissement des rames de papier. Et déjà le matin. Devant l'usine, 7 heures moins le quart. La palpitation trop éveillée des lendemains de nuit blanche. perception aiguë, inquiète, des sons, des visages, des lueurs de la nuit qui s'achèvent, le métal de la grande porte, l'arête glissante du trottoir, la masse symétrique des bâtiments de l'usine, le défilé silencieux de l'embauche, les minces nuages de respiration et de cigarettes dans l'air glacé. Nous distribuons nos tracts. Cela arrive d'un coup, comme un coup de poing dans le ventre. Rué de quatre types, brutalité, tracts qui volent, une chute sur le trottoir, coup, lueur de canadienne dans la nuit, cri, il hurle « Foutez le camp! Les ouvriers veulent travailler !» J'ai reconnu une tête, un régleur de l'emboutissage. Nous nous précipitons. J'entrevois Christian accroché avec un type, Yves avec un autre. J'agrippe un revers de vêtements, un visage apparaît, épais, déformé par la hargne, puis disparaît aussitôt dans la bousculade. Mouvement. Des ouvriers nous prêtent main forte. J'entends « C'est des chefs, des types de la CFT aussi. Et il y a un blessé !» Un des distributeurs de tracts est en sang. Un autre, s'arrachant à la mêlée, a protégé son paquet de tracts. Quelqu'un crie au type « Vous n'êtes pas des ouvriers, vous êtes des flics du patron !» Repoussés, ils entrent dans l'usine, menaçant « On reviendra plus nombreux et on vous fera la peau !» Allaitement de l'après-bagarre. On rajuste les vêtements défaits. Le gars qui saigne s'est mis un mouchoir sur le front. La distribution reprend. Les respirations s'apaisent progressivement. Deuxième tour d'écrou. La journée sera dure. 5 heures. Les contremaîtres à nouveau postés près des portes, menaçants, renforcés de quelques chefs d'équipe, interpellent les partants. Le débrayage, rapide, net, silencieux. L'atelier se vide en partie, assez pour arrêter les chaînes. Un peu moins massif qu'hier, me semble-t-il. Les comptes. 250 grévistes environ. Ils nous ont raboté 50 camarades. Encore des tracts. La semaine est presque finie. Tenez bon, bilan atelier par atelier. Nous insistons sur l'illégalité des menaces de Junot. Nous dénonçons son baratin sur le contrat de travail rompu. Nous ne céderons pas. L'interminable ronronnement de la Renéo. Nous glissons comme des somnambules vers l'aube du jeudi. Le visage creusé. Les yeux fiévreux de Christian m'effrayent. Repose-toi. On s'occupera des tracts et de la distribution. Il ne veut pas. Mais quand il parle, il s'étouffe dans des quintes de toux. Le jeudi, au petit matin, Georges arrive sans s'être rasé, le visage mangé par un début de barbe noire. Il me semble que le manteau de Primo est froissé. Impensable. Cette semaine qui dure depuis toujours. Quand finira-t-elle ? Le jeudi passe dans un brouillard de fatigue, de nerfs usés, de répétitions machinales. Tenir quelques heures encore. C'est le dernier jour d'affrontement de la semaine. Le vendredi sera neutre, sorti à 16h15 pour tout le monde. La direction ne fait pas récupérer. Nos tracts continuent de circuler. Jeudi, 5h. Un peu plus de 200 grévistes. Notre grève a résisté toute la semaine. Ce vendredi est un 21 février. Chaque année, nous commémorons en une journée internationale de solidarité anti-impérialiste cet anniversaire de l'exécution par les nazis du groupe Manouchian, ouvriers immigrés résistants, venus d'Arménie, de Hongrie, de Pologne, ceux de l'affiche rouge. Visages fiévreux et creusés, étranges et étrangers, pourchassés et indomptables, abattus le 21 février 1944. Figure d'hier et d'aujourd'hui d'un même prolétariat immigré arc-bouté dans sa résistance à l'écrasement. Je suis content que ce 21 février ne nous trouve pas dans la défaite. Junot a mis ses menaces à exécution. 20 camarades grévistes ont été expulsés de leur foyer Citroën, sans formalité. Le soir, en rentrant de l'usine, ils ont trouvé leurs valises devant la porte. « Vous avez 5 minutes pour déguerpir », a dit le gérant. Les relogés, on s'arrange comme on peut. Hébergement de fortune. Samedi, dormir. Le dimanche, nous nous réunîmes à nouveau pour préparer la deuxième semaine de grève. De l'avis général, il serait impossible de bloquer la production une semaine de plus. Mais la majorité du comité de base n'envisageait en aucun cas de se plier à l'humiliation des 3/4 d'heure supplémentaires et surtout du travail gratuit. Cela en avait fait une question personnelle. Rien ne les ferait changer d'avis. On continuerait donc, même si l'érosion du nombre des grévistes s'accentuait, même si Junot mettait ses autres menaces à exécution, même si la CFT attaquait en force, on continuerait, pour le principe. On continuerait parce que c'était vraiment une question d'honneur, pas seulement un mot qui sonne bien sur les tracts. Et comme la grève, même minoritaire, ne peut jamais être une simple abstention de travail, qu'elle est toujours une résistance, un surcroît d'activité par rapport au travail. C'est comme de contenir un bloc de granit. Si on lâche tout, on est écrasé. Nous nous arc-boutons à nouveau en prévision du lundi. Nouveau tract, nouvelle campagne d'explication, démarrage immédiat, ce soir même. Nous rendrons visite chez eux aux grévistes que nous connaissons et nous ferons, par groupe de deux, une tournée des foyers, pour autant que l'accès en soit possible. Le lundi soir, malgré nos efforts de propagande de la veille, malgré les tracts du matin, malgré les discussions au vestiaire et pendant les pauses, le nombre des grévistes tomba brutalement de moitié. Une centaine d'ouvriers seulement débrayèrent à 5 heures. Et, pour la première fois depuis le début de la grève, la direction parvint à combler les trous sur les chaînes et à assurer, grâce au remplacement par les régleurs, la maîtrise et quelques professionnels, la production jusqu'à 6h moins le quart, terme officiel de la journée. Mardi 25 février, 7h moins 5. Je marche d'un pas rapide vers les balancelles. Cours, grande porte, couloir, escalier de fer, angle droit, allée, itinéraire de routine que je parcours sans voir, la tête ailleurs. Pénétrer dans l'usine, c'est pénétrer dans la grève. Sous ma veste, le paquet de tracts que je donnerai dans quelques instants à Simon pour qu'il le diffuse sur la grande chaîne. Une journée compacte se prépare. À la pause de 8h15, j'irai au 86 pour parler à Mouloud si Gravier n'est pas en vue. À 12h30, rendez-vous à la cantine avec Mohamed et Primo. Le point sur l'atelier de peinture. Ah oui, le Malien d'hier soir qui m'a dit qu'ils étaient quelques-uns à vouloir discuter aux presses. Ne pas oublier d'y aller. Mon poste. Dupré m'y attend. Narquois, me semble-t-il. Marchant tête bas, j'ai presque buté contre lui. Qu'est-ce qu'il fout là, côté des balancelles? Tu es muté à l'annexe de la rue Nationale. Voici ton bon de sortie. Tu dois y être à 7h30. Qu'est-ce que c'est que ça? L'annexe de la rue Nationale? Jamais entendu parler. Mais il n'y a pas de mais. Tu as juste le temps d'y aller. Faut que tu prennes ton vestiaire, tu ne reviendras pas ici. Et les tracts et mes rendez-vous. Et le Malien des presses. Et alors t'es bouché ou quoi? Tu ne connais pas le chemin de la sortie? Maintenant, il est 7h30 du matin et je suis dans l'entrepôt, mon nouveau lieu de travail. Je me répète, stupéfait par la rapidité de ce changement. L'usine, l'atelier 85, la grande chaîne, les deux chevaux, la grève, tout cela est fini pour moi. Je ne pourrai plus le suivre que du dehors. Mais je n'arrive pas à le penser.
Vous écoutez une semaine spéciale de l'heure bleue autour du texte « L'établi » de Robert Linhart. Et chaque soir, nous avons rendez-vous avec une personne qui va éclairer le contexte de ce texte que vous venez d'entendre dans la voix de Samy Frey. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir rendez-vous avec Virginie Linhart. Virginie, c'est la fille de Robert Linhart.
Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'huma sur le canapé près du chat. S'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa capette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ses années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. pense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça a pété sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? De ses bras de travailleur, c'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi il repense aujourd'hui au petit, v'là 10 ans qu'il est parti? Salut, pauvre cœur, tu seras toujours un esclave. Eh ben, tu vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Pas fini se faire des cheveux, qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de son drapeau rouge, de son Lénine? C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Maman, peut-être lui dire toujours pas de lettres. Il reviendra, il pense à nous, t'en fais pas là-bas, dans la guérilla au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu. Chanson bleue, mon enfant a compris mieux que moi le bonheur de faire péter tout ça.
D'entendre la quatrième partie du texte de Robert Linhart, L'Établi, qui se termine donc par la sortie bien involontaire de l'usine de Robert. Virginie Linhart, vous êtes écrivaine, vous êtes cinéaste, vous êtes l'auteur de nombreux textes, volontaire pour l'usine Vie d'Établi, Enquête au Prud'homme, et puis de beaucoup de films documentaires, l'un sur Sciences Po, l'autre sur les élections présidentielles 1965-1995, deux points, les surprises de l'histoire. Il y avait eu vos histoires de gauche, une histoire du Nouvel Observateur, une histoire de Simone de Beauvoir, 68, mes parents et moi, et puis dernièrement, une histoire de l'Université de Vincennes. Et vous avez publié, il y a quelque temps, un livre bouleversant, qui a eu d'ailleurs un très grand succès, parce qu'il y avait alliance entre le style, la loyauté, l'auto-réflexion et l'histoire tout court, un livre intitulé « Le jour où mon père s'est tué ». Or, votre père, c'est Robert Linhart. Et c'est à 15 ans que vous avez compris que le Robert, votre père, c'était le Robert Linhart de l'Établi.
Est-ce que c'est à 15 ans? Non. Non, non, je crois pas. À 15 ans... 15 ans, j'étais plus vieille que ça. Oui, j'avais déjà compris que c'était le Robert Linhart de l'Établi, mais
Mais vous l'aviez pas lu.
Non, je l'avais pas lu. À 15 ans, j'étais, comme est ma fille aujourd'hui, parfaitement chiante, parfaitement rebelle. Je faisais rien en cours. J'emmerdais la discipline. J'avais déjà tenté de me faire virer de l'école primaire en disant à la cantine que c'était pas bon. Mon père était furax. Il fallait respecter le personnel. J'avais été m'excuser les yeux dans les yeux. Ça m'avait beaucoup humiliée. Et puis, je faisais rien. Et puis, à 15 ans, il est tombé très malade. Et puis, voilà, les choses ont beaucoup changé. Robert, il m'a eu, il se trouve qu'il m'a eu, il avait 21 ans. Donc j'ai souvent le sentiment, et on en parle souvent ensemble, qu'on a presque grandi ensemble. Parce que quand on a 20 ans de différence avec ses enfants, voilà, c'est incroyable. Parce que quand j'avais 15 ans, il avait 36 ans. Donc 36 ans, c'est incroyablement jeune. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, pour la première fois, ont un enfant à 36 ans. Lui, il avait déjà Virginie qui avait 15 ans, Pierre qui avait 11 ans. Et donc, je sais pas, j'ai eu l'impression d'être toujours dans une vie avec mon père, de me construire avec lui. Et non, c'est bien plus tard que j'ai découvert quelle importance il avait eu pour les gens. Si j'ai tenu après 15 ans, quand il était malade, c'est parce que ça avait été un père extraordinaire, d'une gentillesse absolument incroyable, d'une générosité folle, d'une attention très grande, même s'il parcourait la planète, parce qu'il passait sa vie à aller dans tous les pays où une révolution était possible. Il avait passé beaucoup de temps au Portugal, au Mozambique, il allait au Brésil, enfin, il faisait beaucoup de choses. C'était pas un père présent tous les jours. Du tout.
Oui, mais il était là tous les étés pour passer du temps avec ses enfants dans les Cévennes.
Ouais, il était là dans les Cévennes. On était tous les trois. Lui, il écrivait et mon frère et moi, on vivait notre vie d'enfant. Mais j'ai l'impression que c'est tellement un autre monde. C'est incroyable. Il y avait rien dans cette maison. Il y avait la montagne et la rivière. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de toilette courante, il n'y avait pas de téléphone. Et voilà, on passait notre vie à jouer au ping-pong, aller à la rivière et mon père venait nous chercher.
Alors, il y avait un moment très privilégié pendant lequel votre père, Robert Linhart, commençait à faire le ménage dans votre petit refuge au milieu de la nature dans les Cévennes. C'était quand Louis Althusser débarquait. Nous allons écouter la voix de Louis Althusser, qui a été son mentor à Normalsup. Il va parler de l'actualité de Marx. C'est une archive du 24 septembre 1976.
Je crois que l'actualité de Marx est inscrite dans le monde contemporain. Le marxisme est répandu dans les 5 continents. Cette simple présence atteste l'actualité de Marx, ce n'est pas par hasard si Marx est encore vivant. Il est d'abord vivant parce qu'il a donné une théorie du mode de production capitaliste et de sa loi tendancielle. Par conséquent, l'actualité de Marx est d'abord une actualité scientifique. Elle est en même temps une actualité philosophique, car en faisant la théorie des conditions de la lutte de classe, Marx a bouleversé l'ancienne conception de la philosophie. Avec Marx, quelque chose a changé dans ce qu'on peut appeler la conception du monde. Quelque chose a changé dans ce qu'on peut appeler la façon d'envisager les choses, la façon de poser les problèmes, la façon de poser des questions. Un certain nombre de questions ont été éludées comme étant illusoires. D'autres questions ont été posées qui n'avaient jamais été posées. Une certaine façon d'interroger le monde, l'histoire, les choses, les individus nous est advenu par Marx, d'une certaine façon, qui n'a pas fini de nous solliciter, qui n'a pas fini de nous donner à penser, de nous donner à chercher.
Alors ça, c'était en 1976, les propos de Louis Althusser sur Marx. Vous parlez dans votre livre sur votre père de l'influence de Louis Althusser sur toute cette génération d'intellectuels dont fait partie votre père. Mais vous dissociez aussi Althusser. Il y a Althusser, le théoricien, celui qui a permis à toute cette génération de relire Le Capital. Et puis il y a aussi l'individu Althusser, qui, comme on le sait, hélas, a terminé tragiquement sa vie, un peu fou à la suite de l'assassinat sur sa femme.
Alors pour c'est une longue trajectoire, mais c'est vrai. Simplement, ce que dit Louis Althusser sur Marx, ça me fait penser à une chose. Quand j'étais petite, quand j'avais une douzaine d'années, quand j'allais au restaurant avec mon père, il m'expliquait ainsi le marxisme. Il me disait, tu vois, le monsieur là qui t'apporte l'assiette, ce qui serait normal, c'est que un jour ce soit moi qui apporte l'assiette. Et puis le monsieur qui est à la caisse là, ce serait normal que toi tu sois à la caisse. Et puis lui, il serait client. Et puis tu vois la dame qui est aux toilettes, parce qu'à l'époque il y avait une dame aux toilettes, ça serait toi aussi. Et je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça, c'était comme une sorte de d'immense jeu comme ça où on se déplacerait. Et c'est vrai que je crois vraiment très profondément que Robert avait cette vision là, marxiste du monde, et ce qui est montré d'ailleurs dans l'établi, c'est cette volonté absolument, pas d'abolir les classes sociales, parce qu'il n'avait pas cette naïveté, mais de, malgré son rang social, aller partout où on n'était pas attendu. Aujourd'hui, est-ce que Marx est encore... Je crois en tout cas que les rapports de force n'ont jamais été aussi violents qu'aujourd'hui. Quand je vois les caissières du Franprix aujourd'hui, qui sont les manœuvres d'hier de chez Citroën, oui, je crois que le marxisme pourrait s'appliquer. Et je crois malheureusement qu'elles sont encore moins défendues qu'avant.
Quand avez-vous lu pour la première fois le texte L'établi de votre père ?
Je pense que je l'ai lu vers 18 ans. À 18 ans, j'ai pas compris, j'ai pas tout compris. Je trouve que c'est un livre sidérant, parce que c'est un livre à la fois tellement bien écrit, à la fois tellement simple et à la fois tellement poignant, et qui dit des choses aussi tellement fortes. De cette manière si simple, oui, je trouve ça assez sidérant comme livre. Et je pense toujours que j'ai beaucoup de chance d'être la fille de Robert, parce que je suis très très admirative de ce travail, de ce qu'il a fait. Et puis je me dis, c'est chouette parce que tout le monde adore ce livre, donc c'est pas ridicule, quoi. C'est pas une espèce de fan group, la groupie du pianiste, quoi. C'est vrai, c'est justifié.
Dans votre démarche à vous, Virginie Linhart, vous avez mis, comme votre père d'ailleurs, un certain temps à écrire votre propre itinéraire. Et dans ce livre, Le jour où mon père s'est tu, vous parlez du silence de votre père, vous parlez des amis qui venaient partager vos étés avec ce père si aimant, si amoureux de ses enfants, si proche, si simple, aimant tellement la nature. Et vous parlez de quelqu'un qui a été comme Althusser, mais il était plutôt de la génération de votre père. L'importance d'un homme dont nous allons entendre la voix, c'était Benny Lévy. Benny Lévy, qui était un normalien, qui était un type absolument exceptionnel sur le plan de l'intelligence et aussi de l'engagement politique, qui a eu la même évolution politique que votre père, de l'extrême gauche à l'établissement. Puis ensuite, il a choisi d'aller vivre en Israël, où hélas, il est mort il y a quelques années. Nous allons entendre la voix de Benny Lévy, qui va évoquer le mouvement des établis. C'était dans une émission du mois d'août 91, Itinéraire Mao, Sylvie Péju. On écoute la voix de Benny Lévy.
Dans ce fait-là que des intellectuels qui sont parmi les plus grands de notre génération, pendant quelques années de leur vie, sont arrêtés de lire pour aller à Renaud Cléon ou à Renaud Flin, il y a quelque chose d'immense. Ceux qui ne sont pas sensibles à ça, non seulement ils n'ont rien compris à notre histoire, mais surtout ils ne comprennent pas la leur. Dans ce désir exacerbé qu'il y ait un engagement dans l'existence, que sur toute idée, on soit prêt à témoigner, que jamais on ne puisse dire quelque chose qu'on ne soit pas capable de supporter, bon, il y a quelque chose d'immense. Hélas, pour nous, ce désir-là, c'est à ce moment-là exprimé dans un horizon nihiliste. Destruction de l'université... On risquait finalement de détruire le rapport au savoir sans avoir de quoi amarrer notre désir de vérité. C'est ça qui aurait pu être lugubre et qu'il fallait arrêter à temps.
Alors comment vous réagissez, Virginie Linhart, à propos de ces propos de Benny Lévy ?
Benny Lévy et Robert Linhart, c'est vraiment une histoire très particulière. Il y en a un qui est juif apatride, né en Égypte, l'autre juif polonais, né en France, enfant caché pendant la guerre. Ils sont tous les deux normaliens, ils se rencontrent à Normal, ils sont tous les deux, je crois, extrêmement, enfin tout le monde le dit, d'une intelligence et d'une force dialectique incroyable. Mais d'abord c'est Robert qui est le chef, et puis après Robert tombe malade et c'est Benny qui devient le chef. Et il y a eu toujours ce rapport extrêmement étrange entre eux. Et j'ajoute que je crois pas que Benny se soit établi, jamais. Sans doute, surtout parce qu'il n'avait pas de papier. Donc quand on n'a pas de papier, on pouvait pas devenir ouvrier. Il faut savoir que c'est plus tard, quand il deviendra le secrétaire particulier de Sartre, que Sartre demandera ses papiers au gouvernement français. Donc je pense que c'est tout simplement pour ça, il s'est pas établi. Et puis après, il a eu une trajectoire complètement sidérante, puisqu'il est quand même devenu un juif religieux, totalement religieux, orthodoxe. Il s'est installé à Jérusalem, etc. Il n'empêche que pour moi, ça a toujours été comme ça, une présence à la fois familière et fantasmatique. Et je me rappelle que le jour où il est mort, j'ai acheté Libération. Et je me souviens, j'ai été prise presque d'un tournis. J'ai dû m'asseoir quand j'ai vu Benny Lévy est mort. Je me suis dit, oh, mais je vais pas pouvoir aller lui parler. Je vais pas pouvoir entendre ce qu'il a à me raconter sur Robert.
Que reste-t-il de ces années dans ce livre, Virginie, vous expliquez la nécessité qui fut la vôtre d'aller rencontrer des témoins de cet engagement de l'établissement. Et vous écrivez, la sortie de la vie militante, la renonciation à l'idéal révolutionnaire ont été compliquées pour nos parents, mais aussi pour nous. Ces années qui ont suivi la fin de l'engagement sont les plus pénibles de mon enfance. J'ai raconté combien le militantisme faisait de nos parents des gens peu disponibles à tout ce qui les distrayait de leur ligne idéologique. Nous n'étions jamais premiers dans l'ordre de leurs préoccupations, mais cela s'expliquait, c'était pour quelque chose entre guillemets. C'était quoi ce quelque chose ?
Ben c'était les lendemains qui chanteraient. Il y avait vraiment cette idée, et quand j'ai fait ce livre, ce qui était important pour moi, c'était de briser le silence, pas seulement le silence de mon père, mais aussi mon propre silence, c'est-à-dire par rapport à cette histoire, parce que j'avais l'impression d'être très seule. Quand j'ai écrit ce livre, c'était pour l'anniversaire des 40 ans de 1968, c'était en 2008, Nicolas Sarkozy était président de la République, il avait expliqué que les 68ards étaient tous pleins aux as, qu'ils avaient tous des parachutes dorés, etc. C'était tellement loin, mais tellement loin de ce que j'avais vécu. C'était tellement faux que je me suis dit, mais comment ils entendent ça, les autres enfants des parents révolutionnaires ? Parce que, en gros, c'est pas vrai. Nos parents, ils ont quand même, la grande majorité, sacrifié leur carrière, sacrifié 10 ans de leur vie au militantisme, sacrifié souvent leur vie de couple, leur vie familiale, leur vie amoureuse. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Après, il y a eu la dépression, le désespoir très très fort, comme celui qui a pu prendre Robert. Mais il y a eu aussi beaucoup de drogue, il y a eu des gens qui se sont suicidés, il y a eu beaucoup de disparitions. Moi, j'ai un souvenir. Et puis les couples se séparaient. Parce que, en fait, le militantisme, la politique, l'espoir des jours meilleurs, ça tenait tout. Ça tenait la famille, l'amour, tout.
Alors, dans votre quête, Virginie Linhart, vous ne vous contentez pas d'aller retrouver les compagnons et les compagnes de votre père sur le plan politique, mais vous allez aussi voir les enfants, c'est-à-dire celles et ceux qui ont aujourd'hui votre âge. Et à un moment, vous racontez qu'une des filles, donc, d'un couple d'établis, dit cette phrase absolument extraordinaire, mais il y en a beaucoup comme ça dans votre livre. Elle avait un petit journal intime, cette Juliette, et elle a 10 ans à l'époque, cette petite fille. Et elle écrit dans son journal intime, c'est bizarre, j'ai l'impression que nous sommes en train de devenir des bourgeois.
Ouais, c'est incroyable.
Donc c'était réinventer la vie.
C'est vrai que c'est toute cette génération d'enfants, ils sont nés de parents très jeunes. Et je crois que ça joue énormément. C'est-à-dire que les parents, ils étudiaient encore, ils étaient en train encore d'apprendre les choses, ils étaient encore, ils faisaient de la politique, et puis après, finalement, ils ont appris la sexualité plus tard. Ils ont appris qu'ils pouvaient avoir plusieurs histoires amoureuses et tout. Mais nous, on était là-dedans. On était dans la roue de l'aventure, quoi. On était trimballés là-dedans. Donc, on était à l'intérieur, on était des acteurs, mais on était, je crois, aussi très spectateurs. Parce que c'était aussi une époque, et bon, ça, on l'a oublié. J'essaye toujours d'en parler avec mes enfants, mais c'est quand même, les enfants, ils étaient pas du tout au centre, comme maintenant. Beaucoup moins gaffe aux enfants, on leur expliquait pas les choses. J'ai l'impression qu'on n'existait pas, je sais pas comment dire. Vous voyez, il y a cette génération de 68, et là, il va y avoir le cinquantenaire de 68, et on va encore nous expliquer comment on a pris l'Odéon, et comment on a pris la Sorbonne, et on va tout... Nanana, et les pavés, gnagna, et Daniel Cohn-Bendit, et tout ça. Et j'aime beaucoup, je les trouve chouettes, quoi. Mais juste, il y a plein d'enfants derrière. Il y a une génération qui a vécu cette histoire, qui a pensé cette histoire, qui a réfléchi, qui a des choses à dire. Et j'avais envie d'être le dépositaire de cette histoire-là.
Et votre fille, elle a lu le récit de son grand-père ?
Non, pas encore. Pas encore. Ce matin, je révisais. Donc, je le lisais et elle est passée. Elle me dit, ah, tu lis le livre de grand-père ? Je dis, tu sais, tu devrais vraiment le lire. Ouais, d'accord, ok. Là, je suis dans les faux monnayeurs. Après, tu me le passes.
Il est temps que je me remette à mon travail, j'y retourne plus forte qu'auparavant, je sais désormais ce que signifie le silence de mon père, Je ne crois pas qu'il me fasse moins souffrir, mais je le prends pour ce qu'il est, une condition sine qua non de son équilibre, certes fragile, mais qui fonctionne tant qu'il en garde l'entier contrôle. Je mesure désormais les avantages de ce silence, aussi incongru que cela puisse paraître. Je suis obligée de reconnaître qu'ils sont hélas bien réels. À présent, je sais pourquoi mon père a choisi de se taire. Merci beaucoup, Virginie Linhart.
Merci.
Et on continuera demain à écouter le texte de votre père, donc lu par Samy Frey, et puis votre père. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Demain, Robert Linhart lui-même. Merci à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Jean-Louis Deloncle, et on retrouvera comme chaque soir, après le journal, Mishka Assayas pour A Very Good Trip.